Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Valley Hoop, le podcast de l'actualité francophone des Phoenix Suns. Nous sommes cette semaine le 19 janvier 2024 à l'heure où on enregistre juste avant le match contre les Pelicans. Les Suns sortent d'une victoire il y a quelques nuits contre les Sacramento Kings. Nous recevons aujourd'hui Simon Capelli-Welter et je suis en compagnie de Hicham. Messieurs, comment ça va Hicham, comment ça va?
Ben écoute, moi ça va très bien. Je suis très content qu'on ait Simon avec nous, que tout le monde, à mon avis, connaît. Il n'y aura pas besoin de beaucoup le présenter. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec la petite team de Trash Talk, toutes les vidéos. Ils ont pas mal rempli nos soirées NBA et j'aime beaucoup ces fines analyses sur différents sujets NBA. Donc, merci Simon de nous faire l'honneur, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour cette édition.
Non, mais merci à vous. Puis ça tombe bien, comme j'ai l'intention aujourd'hui de complètement dire n'importe quoi. Donc tu vois, c'est bien, ça va contraster avec tes mots un peu trop.
Tu nous connais pas.
Non, c'est gentil. C'est très gentil. Et merci à vous de l'invite. Et puis, c'est la bonne occasion. On s'est tourné autour là depuis un moment. Il y avait ce match entre nos deux équipes respectives. Donc c'est très bien, c'est parfait.
Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on veut t'inviter, Simon. Et puis, on avait essayé lors du premier match entre les Suns et les Kings. Finalement, ça ne s'était pas fait pour des raisons habituelles d'agenda et de planning. Mais on te reçoit aujourd'hui. Donc, Hicham, t'as bien présenté. Tu es aussi, je crois, rédacteur en chef chez SoFoot. Donc, tu as aussi un côté foot. Et ça nous arrive souvent de discuter en privé aussi de foot et de comparaison foot-basket, etc. Machin. Donc, c'est toujours assez intéressant. Peut-être qu'on aura 5 minutes en fin d'émission pour faire ça avec Hicham aussi. Et tu es donc dans l'addition avec nos camarades de chez Trash Talk et notamment particulièrement avec Bastien, que nous saluons évidemment. On va revenir aujourd'hui sur ce match entre les Kings et les Suns. Ça va être le gros morceau, la grosse pièce de ce podcast. On va passer un petit générique et puis on se retrouve juste après. Back with the Remus. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took. Wet like on book. Raising up. Deep three on the way. Oh, Durant goes. Boom. That is just. Oh. Sun came out. I went about to drop top. Les Suns ont donc gagné 119-117 contre les Kings à domicile au Footprint Center le 16 janvier dernier, il y a 3 jours à peu près. Une victoire très bizarre qu'on n'attendait pas avant les 5 dernières minutes du match. Moi, personnellement, j'étais suspendu à ce match parce que je trouvais que l'équipe restait agressive alors qu'on était à moins 20 jusqu'à ces 5 dernières minutes. Je sais qu'Hicham, on en a discuté en message privé avec d'autres membres de la communauté Suns en France. On était vraiment très surpris d'abord d'être à moins 20 contre les Kings alors qu'on est enfin au complet et qu'on était plutôt en rythme sur les 2 matchs précédents. Mais surtout surpris par ce 4e carton qui détonnait un peu. Toi, Simon, peut-être que tu as vu le replay ou pas, hein, je sais pas, tu me dis, mais en tout cas, tu as dû au moins voir passer les images, etc.
Oui, non. Alors, pour être très précis, j'ai pas vu le match en entier, j'ai pas eu le temps. J'ai vu sur le League Pass le truc possession par possession.
Ah ouais, ça s'est charmé, ça.
Ouais, en me le mettant en gros sur la fin de comment les Kings sont à 20 points d'avance.
Ouais, ok, d'accord, très bien. Ok. Ouais, il y a donc cette première mi-temps qui est vraiment en faveur des Kings qui jouent leur basket et notamment en prenant un volume de shoot nettement supérieur à celui des Suns, ce qui leur permet d'avoir une avance relativement confortable à la mi-temps. Dans le troisième quart-temps, on a du côté des Suns une adresse qui baisse en plus du volume, toujours moins haut que celui des Kings. L'adresse des Kings elle augmente et du coup on a plus 20 à l'entrée de ce quatrième quart-temps. Simon, question toute simple, comment t'as vécu ce quatrième quart-temps?
Dieu merci, pas en live, parce que je pense que ça m'aurait gavé. C'était à genre 5h30 du mat, non, que ça se passe. Les faits ont lieu entre 5h30 et...
Ouais, c'est ça, c'est le moment où on est vraiment crevé, quoi.
5h49 du mat.
5h, ouais.
Non, après, des petites choses. Alors, je veux pas du tout... Déjà, les écarts de 20 points, je sais pas si vous avez la même chose, on est à peu près de la même génération et tout. Je crois qu'il faut qu'on remette notre logiciel à jour, les gars. Les écarts de 20 points, c'est plus les écarts de 20 points il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Ouais, c'est fini ça.
Honnêtement, il y a plein de matchs maintenant. Et Bean, il disait ça l'autre fois devant je sais plus quel. Ah, c'était les Spurs contre je sais plus qui était à la ramasse totale. Et là, il disait ouais, non, c'est fini. Et qui en fait ont rendu le match compétitif en revenant à moins 10. J'arrive plus à me rappeler du match. Donc, déjà, je trouve que, en plus, dans ce match-là, que tu l'as dit, il y avait tout simplement un truc un peu. Les Suns mettent rien, les Kings mettent tout, tu vois.
Il y avait 100% ce côté-là, ouais. Ouais, clairement.
Donc, quand tu prends les deux trucs, tu te dis, malheureusement, voilà, ça peut tourner. Après, là, c'est spectaculaire. Et surtout, et moi, j'ai vu assez peu de gens le dire. Je crois que toi, tu en parles dans ton trade et j'ai vu un autre truc. En fait, les Suns s'adaptent assez vite et font surtout un truc, c'est que Durant se met à défendre Sabonis.
Ouais, c'est le gros ajustement du quatrième quart.
C'est ça qui me stresse, c'est que c'est quasiment que ça, honnêtement. Ouais. Et un peu plus d'adresse. Et puis, effectivement, après, le mental, bon, vous... Toute personne qui a fait un sport sait ce que c'est. Hein. Tu commences à rater une fois, deux fois, bah, tu rates le troisième. Hein.
Ouais. En fait, t'as raison et je vais lancer Hicham là-dessus, mais il y a un énorme ajustement de Vogel. Et j'en discutais avec, je crois que c'est Laurent Divac de Kings FR qui m'avait répondu sur Twitter en me disant que Coach Brown s'était fait outcoach par Frank Vogel. Il y a eu un gros choix éditorial dans ce quatrième carton de la part de Vogel et du coaching staff des Suns, qui est de ne quasiment pas aligner de vrais pivots. Donc, Eubanks joue 3 minutes, je crois, sur tout le carton. Nurkic ne joue pas du quatrième carton. Et on a donc, effectivement, ce 5 particulier avec Kevin Durant qui est pivot et qui défend agressivement et très techniquement, moi, j'ai trouvé aussi, avec des mains rapides, etc.
Et vous jouez même pas avec un vrai 4, en fait, à côté de lui.
C'est ça non. On joue vraiment en small ball assumé. Mais la mobilité de Kevin Durant et ses efforts défensifs sont, pour moi, la bascule de ce quatrième carton et ce qui mène les Suns à la victoire. Et notamment cette action où il défend, je crois, sur soit des Aaron Fox, soit sur Malik Monk. Et il part au contre comme ça, alors qu'il y a un début de pénétration avec une tentative de mid-range. Là, on est à 5-41, je crois, dans le quatrième quart-temps. Durant étend son bras, gêne. Derrière, il y a perte de balle Kings. Il y a remontée, dunk de Durant dans la foulée. Et là, c'est le début de la fin pour les Kings. J'ai une dernière question pour toi, Simon, avant de lancer Hicham.
Yes.
On a une des meilleures équipes dans le clutch et dans le money time des 5 dernières années avec ces Kings-là, et notamment particulièrement la saison dernière, mais c'est un peu toujours le cas quand même cette saison, notamment avec, disons, sous l'égide et sous le leadership de De'Aaron Fox dans le money time.
Tout à fait.
Qui fait face à une des pires équipes dans le quatrième carton que sont les Suns cette saison 2023-2024. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, alors, réponse courte, c'est l'exception qui confirme la règle.
Ouais.
Réponse un peu plus développée, je pense vraiment, et c'est pour ça que je t'ai dit ça tout de suite, hein, les Kings n'ont pas eu le temps de trouver une solution, et l'équipe s'est complètement délitée. Parce qu'en fait, alors, c'est pas pour défendre Sabonis, là, il y a les petits trucs, est-ce qu'il est All-Star ou pas, ça, j'en sais rien, parce que c'est vrai que est-ce que les Kings méritent d'être All-Star et tout, mais Sabonis, c'est vraiment toi, t'aimes bien dire ça, en plus, le connecteur, le hub principal du jeu, plus que Fox. Et tout simplement, les Kings n'ont pas retrouvé un truc qui marche. Aussi bête ce soit-elle. Peut-être tout de suite, il fallait faire des pick and roll autour de Monk, j'en sais rien, mais trouver tout... Et le temps qu'ils réalisent que ça n'allait plus le faire avec Durant sur Sabonis, bah, le temps a joué contre eux. Et l'autre truc, c'est que tout simplement, la fin de match, Monk, il fait n'importe quoi. Hein. Je l'adore, mais il fait n'importe
quoi. Oui, il y a un passage, effectivement, où Monk est en responsabilité et où ça marche assez peu, et où on voit De'Aaron Fox aussi beaucoup trop hésiter et finalement ça. Pas réussir à trouver le rythme de jeu. Toi, Hicham, t'as vécu comment le truc?
Bah moi, j'ai regardé une leçon de basket des Kings au départ. Début de match, début de deuxième mi-temps, début de deuxième quart-temps, deuxième mi-temps aussi. Une leçon, une équipe qui joue bien, fluide, avec des passes. Sabonis, extraordinaire en attaque. Point d'ancrage, il est là avec beaucoup de patience à délivrer caviar sur caviar, sur des cuts, des shoots à 3 points, sur des end-off ou voilà, pin-down. Vraiment bon. Vraiment super bon du Sabonis, voilà, il commence à nous habituer à la chose. Moi, je pense qu'il est All-Star, hein. je me fais pas de doute là-dessus, normalement, du niveau qu'il affiche.
Ouais, il est sur ce
scandaleux qu'il
le sur ce match, il finit le match en 21 points, pardon, 12 rebonds et 11 passes. Donc encore un triple-double de Sabonis qui est clairement...
Il en a refait dans la défaite contre Indiana cette nuit.
Ouais, qui est clairement de ce profil de pivot très moderne, très utile dans la NBA actuelle et qui est vraiment ce qui est le plus représentatif, je trouve, du jeu actuel développé dans la NBA. Avec Nurkic, Jokic et Sengun, pour moi, c'est les quatre qui représentent ce profil à des niveaux et dans des tiers différents. Évidemment, ce n'est pas le débat, mais Sabonis est incroyable et puis poseur d'écran de tellement haut niveau que c'est... Enfin, le nombre de passes où en fait c'est des screen assists, il ne touche pas la balle, mais juste sa présence suffit à libérer le jeu de ses coéquipiers. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins, il a fait une masterclass sur les 3 premiers cartons.
Et puis il mettait dedans.
Il mettait dedans et surtout, ce qui s'est passé, c'est que en fin de match, en fait, les Kings ont fini par oublier Sabonis, bêtement. Dans quel sens je dis ça? C'est qu'il y a pas mal de possessions, puisque je me suis regardé le match en direct. J'ai bien fait de garder le cap jusqu'au bout. À un moment, je voulais lâcher tellement j'étais un petit peu écœuré du manque de jeu des Suns. C'était stéréotypé, c'était nul pendant pas mal de séquences dans le match. À jouer des ISO, à plus savoir qu'en faire, et puis vraiment à pas montrer le même niveau de jeu que les Kings. Mais bon, je me suis accroché en me disant, allez, ça se trouve, j'aurais peut-être droit à une fin de match d'anthologie. Bah, et finalement, c'est ce qui s'est produit, j'ai pas regretté. Les Suns ont joué vraiment comme dans un rêve, toutes les étoiles sont alignées sur la fin de match. Et les Kings peuvent s'en vouloir aussi, ils se sont tirés une balle dans le pied, dans le sens où les Suns switchaient tout, absolument tout. Ça a été le gros ajustement au niveau du coaching dans le dernier carton, surtout les 8 dernières minutes. C'était switch it all. Quand tu avais Sabonis qui venait faire un écran sur, je sais pas moi, Eric Gordon, se retrouvait avec dans le dos de Sabonis. Mais au lieu d'avoir une bonne entrée passe, et ça c'était jouable, soit en jouant en triangle ou voilà, avec les qualités de passe de Fox, normalement tu peux arriver à bien servir Sabonis en tête de raquette ou au poste. Ben, il ne le faisait pas, et donc Monk, Fox et d'autres joueurs se mettaient finalement à chercher leur shoot, alors que Fox il s'est cassé les dents sur Durant plusieurs fois. Monk, comme tu l'as dit Simon, a commencé à faire un peu n'importe quoi, alors qu'au début de match je me suis dit merde, voilà, ça ressemble à du monde qui va vraiment nous faire la misère, nous coller un 30 pions et gagner le match quasiment à lui tout seul. Bon, c'est pas arrivé cette fois, heureusement, mais ils ont oublié Sabonis, et je pense que ça a été la grosse erreur de Sacramento, de pas arriver à retourner la pace du match, parce que les Suns jouent en ultra accéléré. Alors ça défendait bien, on a défendu dur, tu voyais Durant qui vraiment se donnait comme un affamé en défense, que ce soit sur Fox ou sur Sabonis. Donc vraiment, il a montré aussi sa polyvalence défensive. Mais voilà, il a donné le là, les autres joueurs ont suivi. Du coup, ça a donné interception sur interception, contre sur contre. Et puis ça allait vite, ça fusait, boum, boum, une passe, deux passes, trois passes. Soit ça va directement au panier, au dunk, au layup, ou alors un panier à trois points libre. On a joué vraiment pour ne pas laisser la défense de Sacramento se mettre en place. Défense, certes, pas parmi les meilleurs de la Ligue cette année, mais on n'a pas laissé la possibilité à Sacramento d'assurer son repli défensif. Et du coup, bah, toutes ces étoiles qui s'alignent d'un côté en attaque et les bons stops défensifs au bon moment, et surtout le manque de lucidité des Kings en fin de match, c'était affligeant de voir à quel point ils ont pu oublier Sabonis dans les 8 dernières minutes, alors que le type... il faisait juste un match, voilà, il était inarrêtable dans la peinture, quoi, tout simplement. Et ben, ça a fini par donner une victoire des Suns. Et bon, on ne va pas s'en plaindre, nous, fans des Suns, mais toi, Simon, j'imagine que pour toi, une défaite comme ça, c'est un peu vomitif. Mais voilà, donc espérons pour les Suns, ça soit le début d'autre chose et que ça permette au collectif de vraiment prendre conscience pleinement de son potentiel et de sa capacité à courir.
Toi, tu penses aujourd'hui que c'est le déclic pour les Suns, ce quatrième carton, Hicham ?
Je pense que ce match, c'était un mal pour un bien. On a pris une fessée pendant plus de trois cartons. Ça a fait beaucoup de mal à toute la fanbase, certainement à l'équipe aussi, à n'en pas douter. Mais finalement, cette réaction d'orgueil et ce qu'on a montré pendant ces 8 minutes, où vraiment, on a couru, pas hésité à prendre des shoots ouverts, parce que parfois, on a vu des joueurs qui hésitent, qui essayent d'attendre le close-out pour aller pénétrer, puis derrière faire un peu n'importe quoi. Même les stars, ça leur arrive de tomber un petit peu dans ce travers. Et bien là, trois points ouverts, on y va, on shoot. Et puis on l'a shooté avec réussite, en particulier en deuxième mi-temps pour les joueurs comme Gordon ou Kevin Durant et Bradley Beal. Donc, Beal en pénétration, d'ailleurs, on pourra en parler dans un autre pod de ça, mais la différence que fait Bradley Beal de par ses pénétrations et comment ça change un petit peu la géométrie du jeu des Suns, et je pense que ça va être assez conséquent pour la suite. Mais voilà, donc c'est fondateur pour moi, je pense, cette victoire. C'est probablement quelque chose qui, sur le long terme, va être assez fondateur de quelque chose pour cette équipe des Suns, ouais, je pense.
Oui, il y a un côté... moi, je trouve qu'il y a une impression visuelle qui donne beaucoup d'espoir côté Suns. L'impression visuelle à partir des 8 minutes, hein, et notamment des 5 dernières particulièrement positives pour les Suns, qui nous mènent donc à la victoire, sous l'égide de Kevin Durant, qui, à la fois dans son body language et dans ses actions offensives et défensives, est un leader absolument incroyable. Et on le disait il y a un ou deux podcasts, cette équipe des Suns a besoin d'un leader. On sait que les joueurs ont beaucoup parlé à la mi-temps. Booker, Bill et Durant ont tapé un peu du poing sur la table en s'incluant dans ce qu'il y avait à changer et dans ce qu'il y avait à remotiver, ou en tout cas à redynamiser. Et puis on a ce quatrième carton qui, pour moi, montre tout le potentiel psychologique de l'équipe. C'est-à-dire que le potentiel technique, on l'a déjà vu par séquence, les Suns avec une pace formidable. Ce 5 fait de Booker, Bill, Allen, Durant et Nurkic est un de ceux dont le net rating est le plus haut, avec un offensive rating qui est vraiment assez puissant. Donc on sait que techniquement, stratégiquement, sur le terrain, ça peut fonctionner, mais il y avait une dimension psychologique dont on avait parlé dans Valley Hoop qui n'était pas à laisser passer. Et clairement, sur ce quatrième carton, moi, j'ai vu un truc que j'attendais depuis le début de la saison et je suis très, très content d'enfin l'avoir vu. Toi, c'est quoi ton avis sur le début de saison des Suns, Simon? Comment tu nous vois de l'extérieur? Je sais que tu essaies d'observer la NBA de manière générale. Je sais aussi que les Suns sont une de tes équipes, disons, que tu trouves les plus intéressantes dans le projet, dans la constitution des choses, etc. Machin. Comment tu vois le truc? Comment tu situes les Suns et quels espoirs tu places en eux?
Alors, c'est compliqué parce que vous êtes presque une équipe, vous êtes presque deux équipes en une. Je trouve en tout cas que au niveau de l'identité, tu as à la fois ce big three et cette puissance offensive, etc. Et tu as un peu envie de te dire, bah, on en mettra toujours plus que l'adversaire et on n'est pas forcément, comment dire, on n'est pas forcément une équipe qui a besoin de bien défendre. Alors qu'au contraire, je trouve que dès que vous défendez bien, il y a une espèce de monstre comme ça d'équipe qu'on voit. Et je trouve que ça va mieux en plus à Vogel, qui est un coach défensif. Mais tout ça a quand même été très tronqué par les blessures, les gars, cette année, en début de saison. Donc on a du mal à juger Phoenix, d'un point de vue extérieur, parce que c'est bête hein, ce que je vais dire, mais d'un match à l'autre, quand t'enlèves un mec comme Durant ou Booker ou Bill et que tu le remets, bah, comme tu l'as dit, ça change toute la géométrie de l'équipe. Et t'en as trois comme ça. Et t'as eu très peu de matchs des trois ensemble. Donc au final, pour te répondre, moi, j'arrive pas à ne pas me faire un parallèle avec les Nets de Durant, en fait. Au moment, un peu ce qu'on a vu contre les Bucks, quoi. Cette année-là, vous voyez, les Nets, c'est un peu Kyrie. Je trouve qu'il y a de ça. Je trouve que l'équilibre entre les role-players qui existe quand même, parce qu'en fait, les stars ratent pas mal de matchs. Donc, à la manière des Joe Harris, même Blake Griffin à l'époque, Bruce Brown qui s'était révélé, machin. Bah, en fait, tu as des Grayson Allen. Il a mis plusieurs fois 30 points cette saison, ou je rêve?
Il a mis plusieurs fois plus de 20 points, en tout cas.
Il a déjà mis plus de 30 points.
Je crois qu'il a fait 31.
A déjà fait du 30 points. Et puis là, c'est la deuxième fois qu'il met 9 paniers à 3 points dans le match. Il a déjà fait 2 matchs avec 8 paniers à 3 points. Donc en fait, à lui tout seul, en une demi-saison, il a les 4 records de paniers à 3 points inscrits dans un match dans l'histoire des Suns. Puisque personne n'avait jamais fait 8 ou plus.
Donc vous voyez, l'équipe est dure à évaluer parce qu'elle change beaucoup. Et elle est un peu protéiforme, mais quand, à mon avis, hein, si en playoff vous avez à peu près tout le monde, et que surtout, je pense que c'est la clé, si on se projette pour les playoffs, vous avez un Durant, parce que pour le plafond des Suns, c'est quand même le niveau de jeu de Kevin Durant. S'il est capable pendant les playoffs, de nouveau, d'être le meilleur joueur de plusieurs séries, et à l'Ouest, c'est pas une gageure de dire ça, mais je pense qu'il en est capable, bah, vous pouvez passer plusieurs tours. Alors que si même l'équipe est au complet, je pense que tu as besoin d'un Durant encore, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah, c'est sûr que tu as besoin d'un Durant au top pour viser le haut du panier. Moi, je pense qu'avec Greg, on sera d'accord là-dessus, on l'est aussi avec Rod sur le pod et pas mal de gens dans la fanbase. On ne s'estime pas forcément être des vrais contenders au vu de ce qu'on a proposé depuis le début de saison. On n'est clairement pas... Mais pas mal de gens, je suis le premier à rester optimiste là-dessus. Je pense qu'on peut le devenir, malgré nos carences, on les connaît. On sait qu'il y a des carences au niveau de la défense. Je veux dire, quand tu regardes, il suffit de regarder un mec comme Eric Gordon, qui joue quand même plus de 20 ou plus de 25 minutes de moyenne par match aux Suns. Tu regardes Gordon défendre pendant quelques minutes. Et tu comprends que si on est obligé de jouer avec ce type de joueurs dans l'équipe en play-off, on va sérieusement se mettre en difficulté parce que c'est les portes du saloon. À la limite, Nurkic, c'est pas l'élément le plus perturbant pour moi, alors qu'en début de saison, je me disais, merde, avec un pivot comme Nurkic, on va pas réussir à aller très très loin parce qu'il va, il va pas être capable de défendre comme ils le font en play-off, où on va avoir besoin de varier les schémas défensifs, de passer d'un drop à un edge, à un switch all, à tout un tas de différentes configurations pour arriver à s'ajuster aux paramètres de l'adversaire, au match-up. Et finalement, Nurkic, moi, je trouve que c'est une des belles surprises avec Grayson Allen de ce début de saison, de cette première partie de saison des Suns. Donc, ce n'est pas là que je suis le plus inquiet. Par contre, je pense que le X-Factor, moi, je pense que Durant, comme tu as dit, Simon, ça va être vraiment la clé de voûte, c'est sûr, avec Booker. Booker a l'habitude de faire quand même des belles campagnes de play-off. Durant aussi, même si la dernière était un petit peu mitigée parce qu'il a été très bien défendu par Aaron Gordon, mais je pense que les deux vont être certainement au rendez-vous s'ils sont en tout cas en bonne santé. Bradley Beal, j'en attends beaucoup. Par contre, le truc qui m'inquiète toujours côté Suns, pour vraiment viser haut, c'est ce banc où il y a clairement des carences qu'on va avoir beaucoup de mal à combler en fait.
Ouais, pour le coup, c'est là où on n'est pas forcément en accord dans l'ensemble de la fanbase et dans l'équipe du podcast d'ailleurs, mais on va en discuter un petit peu plus loin parce que je pense que Simon, tu auras sans doute des questions à nous poser sur la free agency. Nous, en tout cas, on en aura sur la free agency des Kings et on va en parler juste ensuite. Mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Simon, à propos de Kevin Durant. Pour moi, chaque titre est un petit miracle. Quelle que soit l'équipe qui remporte le titre, je considère que c'est toujours un petit miracle parce qu'il y a toujours une dose de chance, d'opportunisme, de santé, etc., au-delà du niveau des équipes elles-mêmes quand elles s'affrontent. J'ai l'impression que si les Suns sont champions à la fin de la saison, le miracle ne sera pas un petit miracle, ce sera un énorme miracle. Ce n'est pas infaisable, mais ça relèvera vraiment d'un énorme miracle. Et je crois qu'effectivement, ce miracle il commence à tenir sur les épaules de Kevin Durant, mais qu'il est amorçable uniquement si Devin Booker est encore plus fort que sur les playoffs derniers et que Bradley Beal est à son plancher, c'est-à-dire 22 points par match, 5 passes, 5 rebonds. Et en fait, ça, d'avoir ces trois-là, effectivement, il faut qu'à côté, on ait un banc qui tienne la route. Moi, je trouve honnêtement qu'on est très dur avec ce banc. Je trouve que sur une rotation de 6 joueurs, 6 à 7 joueurs, on l'a pour l'instant. Il nous manque grosso modo un autre joueur pour arriver à 8, ce qui est une rotation de play-off, et c'est en tout cas la rotation des Nuggets l'an dernier en play-off. C'est 8, maximum 9 joueurs, mais plutôt 8.
Mais tu comptes Gordon.
Je compte Gordon, c'est ça?
Ouais.
Tu comptes ouais, Gordon. Je compte Gordon. Gordon sort du banc.
Hors du saloon, Gordon. Moi, il m'en fout en défense. Il me rend dingue.
Il y a des séries de play-off où tu pourras faire jouer. Il y a des séries de play-off où je pense que ça sera vite compliqué.
Ouais, mais le truc de Gordon, c'est que c'est un type qui va prendre 8, entre 8 et 12, 3 points en play-off. Il peut en mettre 3. Et il peut aussi en mettre 7. Et ouais. Quand tu as un joueur comme Gordon qui met 7, 3 points, qu'à côté, tu as Durant qui en met 3. Booker qui en met. Enfin, tu vois, c'est
7-8e homme, ça me va, tu vois. Ça
ouais, voilà, exactement. Le mec, il est 6 ou 7e homme. Ouais. Et après, on a à côté des mecs qui, moi, je trouve, sur la série des 5 derniers matchs, commencent à être pertinents dans l'équipe.
Je pense que ça aussi, à cette logique de 8 joueurs en play-off, vous n'êtes pas loin. Ça.
Mais c'est ça, tu vois. En fait, il nous manque pas grand-chose. Pas loin. Alors, disons que sur les derniers matchs, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le coaching staff cherche ce joueur-là. Malheureusement, on a Yuta Watanabe. Ouais, dis-nous.
Les auditeurs, on les énumère, non, peut-être.
Ouais, exactement. J'allais y venir. C'est que, en fait, on a donc, grosso modo, depuis le début de la saison, à ce poste-là de 7e, 8e homme, on a Shimizu Emetu, on a Keita Bediop, Yuta Watanabe et Josh Okogie qui, grosso modo, se tournent autour et se disputent la 7e et le 7e et le 8e poste. Je vais y arriver. Le 7e et le 8e spot de la rotation de l'équipe en saison régulière qui devrait normalement être celle des playoffs. Il y en a beaucoup qui sont complètement sortis de la rotation. Et beaucoup sur 4, c'est 2. C'est déjà beaucoup. Quoi. Yuta Watanabe, il est out. Malheureusement, j'avais l'impression qu'au début de saison, c'était peut-être celui sur lequel le coaching staff comptait le plus et notamment par son adresse à 3 points la saison passée. Là, cette saison, c'est vraiment le jour et la nuit pour le coup. On a Keita Mezdjob qui s'est avéré utile dans la bonne série de victoires quand Booker était là au début de la saison et qui faisait des statistiques en 30-12 à chaque match. Ouais, on avait Keita Mezdjob qui était très utile par son côté all-around, ni très bon ni très mauvais à rien dans le jeu. Et aujourd'hui, ces deux mecs, ils ont...
C'est du 4 contre 5. Hein,
voilà, exactement. Et en fait, à chaque fois, que ce soit avec Utah ou avec Bates Diop, dans les deux cas, c'est du 4 contre 5. Et aujourd'hui, ces mecs-là sont sortis de la rotation ou presque. On se retrouve avec Chimezie Metu qui, lui, a trouvé une réelle utilité par son dimensionnement athlétique, qui est un de nos chouchous dans le podcast. Et on a à côté, j'ai oublié son nom, donc Eric Gordon et celui que j'avais cité à côté, Josh Okogie, qui est donc en mission défensive et qui apporte aussi par ses cuts, notamment cut backdoor, etc., qui sont très utiles dans le style de jeu, puisque les Suns sont, je crois, second dans la ligue en points marqués sur les off-ball cuts. C'est-à-dire ces cuts qui permettent à Nurkic de faire la passe décisive ou à Durant et qui passent soit derrière la défense, soit en diagonale et qui viennent couper les lignes et finir au panier. Donc ça, c'est des points qui sont très valuables pour nous parce qu'ils ne dépendent pas des trois autres scoreurs et c'est là où on attend le banc, et notamment lors des staggering des minutes de Bill et de Booker au playmaking. C'est là dont on a besoin d'avoir de l'efficacité et de la productivité. Aujourd'hui, on n'est pas optimal sur le truc, mais on va en discuter juste après une petite pause. Il y a peut-être des changements à faire dans l'effectif. Mais je suis moins radical que toi, Hicham. Je n'irai pas jusqu'à dire que le banc est une interrogation. Je dirais qu'en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas notre atout principal. Là où d'autres équipes, clairement, c'est leur atout, quoi. Tu vois, tu sais que quand leur banc va jouer, ça va être très dur d'aller coller des stops défensifs et des runs offensifs, quoi.
Ouais, je suis un petit peu plus pessimiste sur le banc, mais ouais, on va en parler.
Écoute, pour une fois que c'est toi le pessimiste, on passe le bonjour à Rod.
Il va être surpris.
Oui, c'est ça, exactement. Bon, les gars, je vous propose une petite pause et ensuite on va parler de la suite de la saison pour les Kings et pour les Suns. De retour dans Valley Hoop, quelques questions pour notre invité, donc Simon, à propos de la saison des Kings. Moi, personnellement, et je crois que c'est aussi le cas pour Richard et Rod, d'ailleurs, chez Valley Hoop, mais moi, j'aime beaucoup ces Kings, et notamment depuis le début de l'époque Mike Brown au coaching. J'ai toujours eu de l'affection pour De'Aaron Fox et le joueur qu'il est sur le terrain, visuellement et statistiquement. J'aime aussi beaucoup, beaucoup de Domantas Sabonis, évidemment. Cette année, vous avez d'autres joueurs qui pointent le bout de leur nez dans un statut de star. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de Malik Monk parce que c'est quand même une saison extraordinaire, quand bien même le match contre nous ne soit pas à l'image de sa saison. Il fait une saison incroyable, Malik Monk. Est-ce que tu penses que Malik Monk peut tenir le rythme jusqu'au bout et aller chercher un trophée individuel, par exemple MIP ou ce genre de truc?
Je vais être cynique, mais oui, il va tenir plus jusqu'au bout parce qu'il tient, il joue pas seulement pour un trophée, il joue pour la thune aussi, il est en fin de contrat.
Ah, c'est pas cynique, hein. C'est... Ouais. Tu penses qu'il fait une, tu penses qu'il a une contracture
lucide, alors. Ouais, bah il est en fin de contrat, il est en position de force parce que là tu vois ce qu'il apporte. Tu vois le fait que c'est quand même pas le meilleur pote, mais c'est un pote de fac, etc. et tout de Fox, tu vois. Enfin, je dis pas le meilleur pote, j'en sais rien, mais c'est pour pas gonfler le truc, mais il est pote avec Fox vraiment. Il a un rôle dans l'équipe et tout. Enfin, je sais pas, ça colle parfaitement et. Donc, il joue aussi pour... là, il avait un contrat de 2 ans. Je pense qu'il va se mettre bien. Et il risque, en plus, d'avoir d'autres équipes qui vont forcément pousser les Kings à mettre le plus d'argent possible. Tu vois. Je ne sais pas jusqu'où ça va monter. Ça me fait même un peu peur. Mais voilà pourquoi aussi Monk fait cette saison. Hein.
Est-ce que tu penses qu'il y a un trophée individuel qui est touchable pour lui ? MIP ?
Non, je ne pense pas.
Tu ne penses pas ? Pas à ce niveau-là ?
Sixième homme.
Ah oui, ok, d'accord.
Enfin, moi, non, qu'est-ce que vous en pensez, vous,
sixième homme, ça se défend.
Il sera candidat au Six Man of the Year, je pense. Plus candidat, peut-être pas au sens du trio de tête, mais il sera au moins, il sera placé, quoi.
Ouais, il a des voix. Il a des voix, il peut être cinquième, tu vois.
Ouais, il peut. Et s'il fait une grosse deuxième moitié de saison, pourquoi pas, c'est pas interdit qu'il le gagne, ce trophée, qui en général est réservé pour ses profils de gros scoreurs, combo guard, en sortie de banc. Et puis là, le profil, bon, c'est un joueur que j'aime bien. Et je pense qu'il en a
j'ai l'impression que tout le monde l'aime bien. J'écoutais, c'était quoi de Dreamcast Show dans leur chouchou, ils avaient Monk, etc. Ils disaient des trucs très vrais que maintenant, en fait, il fait aussi des trucs très simples, genre des pocket pass sur des pick and roll, tout ça et tout. Mais bon, il va lever le pied. Je reprends vraiment leur formule, tu sais pas pourquoi, juste pour le style. Et c'est ça, Malik Monk, quoi. Mais ce qui est intéressant, effectivement, ouais, c'est qu'il est très fonctionnel maintenant. Surtout, il a passé un énorme cap en termes de. Il remplace Fox, en fait, souvent. En fait, il te permet d'avoir. Il y a tout le temps, en fait, deux des trois entre Sabonis, Fox et Monk maintenant.
Ouais, il y a tout.
En gros. Non, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a 5 passes et demi par match. Ça doit être son.
Ouais, puis.
Carrière, j'imagine.
C'est ça. Puis il y a des passes un peu. Il y a des passes simples, il y a des passes. Il est capable de passes très complexes parce que c'est un. C'est un. Je pense que vous vous rendez compte, mais en voyant plus de matchs des Kings, forcément et tout, il y a un truc. C'est vraiment un dribbleur de... Je parle vraiment
de très haut niveau, oui. Jamal Crawford.
Ah ouais, ouais, non, mais.
Ouais,
non,
ouais, ouais, ouais.
Vraiment, quoi. Ce qui lui permet des fois d'avoir des ouvertures d'angle de passe un peu unique, on va dire, et tout, juste par. En sortie de dribble. Et puis bon, bah, offensivement, il a toujours cette capacité au shoot et à la pénétration. En plus, il pénètre quand même assez souvent. Donc, il est très agressif, il peut faire tourner des lancers, etc. Il est parfait pour les Kings, hein, franchement. Et dernière chose, il commence, parce que ça, c'était la lacune, et il commence aussi à trouver un peu plus naturellement cette connexion avec Sabonis ou avec les autres joueurs. Là où avant, comment dire, c'est pas qu'il jouait solo, mais il était un peu électron libre, on va dire, dans l'équipe. Alors que maintenant, d'où cette répartition à trois, qui sont les trois généraux un peu de l'équipe, je trouve, pour la qualité de jeu, le fond de jeu et tout, il est capable de supporter une grosse charge maintenant.
Mmh. Ouais, en tout cas, dans le match contre les Suns, il a pas été forcément très adroit, parce qu'en deuxième mi-temps, il a eu quelques mauvais choix et il avait tendance à forcer peut-être un petit peu trop son shoot, malheureusement, pour les Kings. Mais quand même, en début de match et dans ce qu'il a montré surtout à d'autres moments de la saison, on voit quand même que Monk, c'est vraiment ce joueur qui, petit à petit, alors tu me dis si je suis dans le vrai, Simon, mais j'ai l'impression qu'au niveau de son IQ basket, il a pris un peu de galon, qu'il comprend un peu mieux ce qu'il doit faire, comment jouer un peu plus avec les autres et moins avoir les œillères.
Oui, mais à sa, comment dire, c'est pas du tout pour le critiquer, mais c'est aussi pour se rendre compte d'un truc. C'est la première fois qu'il est dans une structure collective, comment dire, structurée, claire, hiérarchisée, etc., avec un vrai rôle. Malik Monk, c'est un mec qui est drafté par les Hornets, qui a été utilisé, mais jamais responsabilisé, etc. Et tout. Et en fait, je pense qu'on se rend compte, comme plein de fois en NBA, c'est des questions de rôle. Et là, on lui fait confiance. On se rend compte qu'il est capable à la création et tout. Et c'est aussi le travail de Mac Brown, du coaching staff et tout, je pense, avant même d'être le sien. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus qu'il est conditionné et coaché pour faire ça.
Ouais.
Et on le voit d'ailleurs que parfois, c'est pas, il est encore faillible.
Ouais, comme on dit en fin de match. Je suis d'accord avec cette analyse. J'apporte beaucoup de crédit à la réussite des Kings au coaching. Parce que je trouve que Mike Brown et son coaching staff font un boulot absolument incroyable et que Malik Monk, c'est le diamant à la pointe de ce travail-là, cette saison. La saison dernière, c'était évidemment le step-up de De'Aaron Fox à tout point de vue. Mais je trouve que là, cette saison, c'est Malik Monk. Et Malik Monk, dans son utilisation dans le jeu, dans ce que les Kings en font, tu sens que lui, il fait tout pour utiliser son skill set qui est assez profond finalement, en tout cas en attaque, parce que c'est un initiateur, un passeur, un disrupteur, etc. Même il peut connecter sur des end-off, etc. Machin. Enfin, c'est un joueur vraiment capable en attaque et pas unidimensionnel. Ah, ce qu'on pensait d'ailleurs lors de sa draft à Charlotte. Qu'est-ce que tu disais, Hicham?
Non, je disais, j'aime beaucoup comme Six Men. Tu me le donnes à Phoenix, je kiffe.
Ah bah bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, le payroll, mon gars.
Là, on est sur deux dimensions complètement.
Non, mais je vais pousser le bouchon, moi, un peu loin. Mais c'est un joueur qui te fait 70%, à peu près 70-75%, je dirais, en termes de tout, hein, de ce qu'il apporte sur le terrain, la créativité, tout ça. D'un mec à la Kyrie Irving, en fait, c'est ça dont
tu parles. Oui, exactement. Ouais, c'est 100% ça.
Il avait le côté talent pur. Ça, on le savait tous, tu vois, parce que voilà, il est drafté très haut, quasiment que là-dessus et tout. Mais là, le fait d'être devenu. Alors Kyrie, c'est vraiment le modèle ultime de cette espèce de truc hybride entre meneur et arrière-shooter, mais qui est en fait élite à tout.
Oui, mais c'est un peu ce que Sengun est à Jokic, c'est un peu la même chose avec Kyrie, c'est ça que tu veux nous dire, quoi.
Ouais, c'est pas mal, je trouve. Peut-être que c'est moi qui aime trop Malik Monk, mais si vous me suivez un peu de temps, je vous dis que soit vous aimez trop Malik Monk aussi, soit ça va, quoi.
Bah moi, j'adore Alperen Sengun, c'est peut-être ça aussi, tu vois.
Du coup, on a créé un chiasme comme ça, et on exagère.
Ouais, exactement. Non,
mais Kyrie, parce que le dribble et le toucher. Mais je veux dire, surtout, pour revenir là-dessus, le coaching staff des Kings, pardon, le coaching staff des Kings, on le voit aussi dans le développement de Keegan Murray, on le voit aussi dans comment ils ont récupéré Alex Len, comment même McGee est cadré et tout. Moi, ça me fait bizarre, hein, en tant que fan des Kings.
Oui, ça doit être très, très, très bizarre. J'ai une deuxième question à te poser, Simon. C'est est-ce que tu attends des trades, est-ce que tu attends des changements, des bouleversements dans cet effectif d'ici la trade deadline? Et si oui, est-ce que toi, tu as des petites idées qui t'iraient bien assez rapidement à évoquer?
Oh, je suis content que tu me demandes ça. Ouais, des bouleversements, peut-être pas. Parce que je pense qu'il ne faut pas. En gros, il y a quatre intouchables, Murray, Sabonis, Fox, Monk.
Ouais, je suis d'accord.
Bien. Et après, sur Werther, Mitchell, Barnes, il y a sans doute un trade à trouver. Niveau pick, on a encore deux, trois petites choses à donner. Qu'est-ce qu'on pourrait encore en termes d'assets? Trey Lyles, il faut le garder. Parce que son profil colle tellement bien avec ce profil d'espèce de 3 and D, mais de grande taille, tu vois, ça marche bien. Donc, moi, j'aimerais bien celui de Portland Grant.
Jeremy Grant.
Ouais, j'avais un doute, c'est bien Jeremy. Ouais. Parce que Kyle Kuzma me fait peur aux Kings. Par exemple, l'autre rumeur, ce serait Kyle Kuzma. Et puis, parce que Kyle Kuzma est trop offensif, en fait. Dans l'équipe de l'équipe, il y a déjà assez... Alors que Grant, même si à Portland, il en fout plus une, apparemment, que sur Twitter, j'ai pu échanger avec des fans de Portland et tout, que j'ai cru comprendre que, bon, pas si sûr que... Voilà, c'est quand même un joueur plus défensif que Kuzma, même si Kuzma a progressé.
Il faut être motivé hein, pour avoir envie de jouer à Portland depuis quelques temps. C'est...
Ouais, franchement, là, c'est atroce.
Ouais, voilà. Et puis, je pense que de lui-même, il sait qu'il n'est pas dans le projet de l'équipe, en fait, la timeline et tout. Et au contraire, il est parfaitement, je trouve, il correspond très bien à ce noyau. Enfin, moi, j'arrive très bien à me projeter avec Jarian Grant à la place d'Harrison Barnes.
En fait. Ouais, en fait, j'avais vu passer ton tweet à ce propos. C'est pour ça, d'ailleurs, que je te pose la question. C'est parce que moi, je trouve que c'est une idée de trade qui est relativement intéressante pour les Kings. Moi, Jeremy Grant, je trouve que c'est un joueur dont on sous-estime l'apport dans une équipe qui serait compétitive. Parce qu'en vrai, ce mec n'a réellement jamais ou presque été dans une situation compétitive en NBA.
C'est quoi, lui, fait du
Thunder, oui, mais bon, à l'époque, si tu veux, c'était pas le Denver contender, quoi.
C'était la quatrième ou cinquième option d'une équipe des Nuggets qui était quand même déjà compétitive à l'époque.
Ouais, compétitive, mais c'était pas contender. Là, venir aux Kings,
Il a Détroit.
Après, il est à Détroit où c'est un marasme pas possible.
Oui, il est à Détroit, mais parce que il
est franchise player de l'équipe à Détroit.
Il est franchise player, il met ses 20 pions par match. Il a voulu montrer à toute la NBA qu'il était capable de mettre 20 points par match. Bravo à lui, parce que des gens ont douté. Moi, le premier, tu m'aurais posé la question il y a 4 ans. Tiens, Jeremy Grant, est-ce que tu le vois comme pérennial 20-point scorer? Je t'aurais dit, je sais pas, mais je pense pas, vu qu'il ne l'a pas prouvé dans sa carrière et que c'est pas un mec qui a un jeu offensif très léché, des moves, des dribbles, etc. Bon, il a montré que finalement, si, il a des moves, il a des qualités, il a des aptitudes offensives. En défense, il a moins montré que ce qu'il montrait avant, en particulier à Denver. Maintenant, aux Kings, signer un mec comme Jeremy Grant, ça fera plaisir à Simon et à toute la fanbase des Kings, j'en suis sûr. Moi, ça me fâcherait parce que ça rendrait clairement les Kings bien plus forts encore que ce qu'ils sont déjà aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, Simon. Ça serait vraiment un profil de joueur à viser clairement pour les Kings parce que tu remplaces Harrison Barnes par Jeremy Grant, tu passes un step, ouais, clairement. Tu passes un step.
Et puis après, je vais au choix. Pardon, je t'ai coupé peut-être.
Non, mais juste j'allais dire, derrière, c'est combien de picks tu vas mettre. Parce que Harrison Barnes et Werther, ça ne suffira pas pour avoir Jeremy Grant. Il va falloir
balancer. Non, et en jeune, on a Davion Mitchell, ils sont blindés à la main. Enfin, ils sont blindés. Leur franchise player, a priori, c'est à la main.
Est-ce qu'ils vont vouloir de Davion Mitchell qui a pas réussi à vraiment poser.
Non, mais ça ne sera pas. Je pense que ça ne sera pas. Et du coup, je ne sais pas. Parce que Kuzma, je pense que c'est une fausse bonne idée pour les Kings. Mais je t'ai dit, je sais pas.
Ouais. Mais les picks,
dans tous les cas, c'est un ailier fort, quoi, Simon.
Ouais, je pense. En gros, c'est remplacer Harrison Barnes, qui est vraiment en perdition là aux Kings. Et même Harrison Barnes, je pense que ce serait bien pour lui de changer d'air, voire même de se retrouver dans une équipe qui joue les playoffs, contender et tout. Il pourrait être très utile dans un rôle comme ça.
Tout à fait.
Moi, si d'un coup il va, je sais pas, à Dallas, un truc comme ça et tout.
Mais si les Kings ont leur pick, par contre, je veux dire, par exemple, si tu t'appelles Portland, tu leur dis bon, je vous envoie Werther. C'est-à-dire un joueur qui est capable de jouer au moins dans une rotation, voire même être titulaire, qui est encore assez jeune, qui est productif. Ok, c'est un bon petit role-player. Harrison Barnes, c'est un peu mi-role-player, mi-salary filler. Mais en gros, il va falloir les attirer avec des picks. Est-ce que vous avez vos picks?
Je sais pas assez, mais je pense que de toute façon, nous, c'est pas... Si on doit donner les picks, dans ce cas-là, je pense que je vais trop loin, mais je voulais parler de ce trade aussi avec vous. Parce que ça vous fera soit plaisir, soit remuer le couteau dans la plaie. Mais moi, j'ai un rêve, c'est de tout donner. Là, je ne sais pas combien on a de pics, mais sur un 12.
Michael Bridges.
évidemment.
Ah, mon gars.
Mettez-moi Michael Bridges aux Kings.
Mon gars.
À la place de Harrison Barnes. Et là,
je savais que tu étais un chic type. Je savais, Simon, que tu étais un chic type.
Sur le papier, c'est la, mais c'est la recrue parfaite de 27 équipes, ce type. Bon, voilà.
Tu sais de qui c'est la recrue parfaite? Des Phoenix Suns.
Mais on va y venir à ça. Je ne sais pas où on en est dans le conducteur et tout, mais on va y venir.
Ben justement, c'est des questions que... Enfin, là, maintenant, on va rentrer dans ce qui concerne la saison à venir des Suns. Je te rejoins sur le côté Micah Bridges aux Kings et honnêtement, je vous le souhaite, c'est pas du tout remuer le couteau dans la plaie, mais vu la situation avec Jack Vaughn qui, je trouve, utilise mal Micah Bridges du côté des Nets, et moi, je trouve que positionner Micah Bridges en première option offensive dans une équipe, c'est à mon avis compromettre son développement.
Oui, mais ils n'en ont pas d'autres.
Oui, mais peut-être, mais si, ils ont Cam Thomas, fais-moi jouer Cam Thomas 30 minutes par match, je m'en fiche.
Non, parce que le problème, on va parler des Nets, en gros... il faut tout casser et filer des picks et tout parce qu'en fait là ils sont en train de perdre la valeur les joueurs alors
oui,
qu'ils sont
exactement
que ce soit Finney Smith, Cam Johnson, Bridges qui a une très grosse valeur, ils vont en perdre au final de plus en plus. Dinwiddie il en a quasiment plus alors qu'il y a 6 mois il en avait encore, etc. Donc il faut qu'ils se dépêchent là, mais par contre sur la critique de bon Jack Vaughn il a des limites certes, mais ils s'en foutent là les Nets, les gens comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait des trades, ils se remettent de ça, ils ont fait des plutôt bons trades pour à la fois Durant, autant ils ont fait des mauvais trades pour Harden machin. Mais pour Durant et Kyrie, à la sortie, ils ont fait des...
Oui. C'est intelligent, en tout cas. Ouais.
Et ils vont refaire à peu près ça à 60%, quoi. Mais sur Cam Johnson, sans doute Michael Bridges, etc. Et c'est tout. Je pense qu'il faut... Voilà. Et le problème, là, actuellement, pour avoir vu pas mal de matchs des Nets, bah, en fait, ils n'ont pas ce joueur qui domine en fin de match et qui gagne les matchs à 50-50 comme plein d'équipes en jouent.
Ouais.
De Cleveland à Atlanta, en passant par, je ne sais pas moi...
Bridges, c'est pas un franchise player, quoi.
Et Cam Thomas, si tu le responsabilises, déjà d'une, franchement, il va faire pas mal n'importe quoi encore. Mais il va faire aussi des trucs de fou. Comme responsabiliser Malik Monk, hein, les gars.
Oui, c'est exactement la même chose.
C'est une pièce en l'air. Et par rapport aux autres joueurs, tu les brises.
Oui, c'est pas faux.
Brises. Je veux dire, des mecs comme Dinwiddie, Bridges, et même dans une certaine mesure, franchement, bon, je vais pas aller jusqu'au Royce O'Neal, mais même Cam Johnson, je dirais. Si tous les matchs, c'est genre les gars dans le coin, on écarte tout le monde dans le coin et en fait, Cam Thomas, c'est Michael Jordan. pas sûr, quoi.
Ouais, bon, c'est sûr, ça le fait pas.
Nous parlerons des Nets lors du prochain match entre les Suns et les Nets le 31 janvier, je crois, au Barclays Center.
Vas-y.
Simon, est-ce que tu as des questions à nous poser à propos à propos des Suns?
Bah oui, parce qu'en gros, comment dire? Il y a une station, on parlera de foot juste déjà par ce biais-là, mais de Bielsa, enfin qu'on attribue à Bielsa, mais je ne sais pas si c'est lui à l'origine, mais qui en gros, je t'aime même si tu gagnes, ou je t'aime même dans la victoire, selon comment on traduit et tout. D'où ma question, c'est en vrai, est-ce que vous préférez perdre avec Michael Bridges, Cam Johnson, voire CP3, Monty Williams, la famille quoi en gros, ou gagner, enfin je dirais gagner un ou deux tours de plus, mais quand même perdre, mais vous voyez perdre plus tard, parce que je pense que c'est ce qui va vous arriver, je suis désolé d'être honnête, mais... Pour moi, allez, tu parlais d'énormes miracles, je suis d'accord, enfin de gros miracles, pardon, pour reprendre vraiment la terminologie exacte.
Non, mais énorme, c'est ce que je pensais. Miracle, c'est ce que je pensais.
Par contre, il y a un chemin où il y a un petit miracle, KD un peu en feu et tout, et vous coupez la tête de quelqu'un, enfin vous assurez au premier tour, vous coupez la tête de quelqu'un au second et vous perdez dans une très belle série en finale de conf. Ok ?
Ok, ok.
On parle de ça, mais donc voilà, qu'est-ce que vous préférez en vrai ?
Bah, moi, très honnêtement, on est allé jusqu'en finale NBA avec le groupe précédent. Moi, je préférais le groupe précédent. Maintenant, il y a des choses dans le groupe actuel qui me plaisent et qui me séduisent de plus en plus, mais c'est difficile pour moi, qui ai quasiment 20 ans de supporterisme des Suns, de m'attacher à un groupe autant que ce que j'ai connu et qui m'a ramené des sensations comme l'époque Nash, Stoudemire, Dio, Marion et l'époque Bridges, CP3, Booker, etc., Cam Johnson. Et je trouvais que ce noyau de jeunes-là était hyper intéressant, etc. Mon cœur a été brisé le 9 février dernier. C'est bientôt l'anniversaire, je vais m'habiller en noir. Mais, mais je préfère encore à ce jour le groupe précédent. Mais encore une fois, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, c'est moins de 200 minutes ensemble cette saison. Je pense qu'il faut... Tu sais, j'ai pas eu le coup de foudre pour ce nouveau groupe, mais ça veut pas dire que je suis pas capable de l'aimer. Il faut juste que ça prenne un peu plus de temps dans la joie et dans le triomphe, qui n'a pas besoin d'être un triomphe définitif. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on ne prend pas la bague d'ici à la fin de contrat de Kevin Durant, là, je vais vraiment être amer, triste et ah ouais. aigre, tu vois, aigre. Même pas aigri, aigre.
Tu acceptes la peine de cœur s'il y a une bague, en fait.
Mais parce que, en fait, si tu veux.
C'est pas du tout un reproche, hein, c'est que j'essaie.
Non, mais je sais. Hein, mais le truc, c'est que on fait ce trade pour le seul objectif de la bague. Il n'y a pas de on va développer machin. Non, tu développes pas un joueur de 35 ans qui est déjà Hall of Famer avant même de venir aux Suns. Tu ne développes pas ce type-là. Lui-même se développe et d'ailleurs, il change un peu son jeu. Il s'adapte à nous très bien. C'est top. Et de la même façon, tu ne vas pas chercher un Bradley Beal qui a une no-trade clause et qui a une jury prone si ce n'est pas pour compter sur ses jours heureux où il est susceptible de te planter 30 points dans une série en moyenne et de te rapporter à lui tout seul 4 victoires contre n'importe quelle équipe en play-off. Mais le truc, c'est que tu pour ça, pour cet espoir-là qui est un très, très haut espoir, tu sacrifies une équipe qui a fait des finales NBA dans lesquelles ils ont gagné des matchs.
Je comprends et je vois tout à fait ton point de vue. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai le même point de vue en fait de supporter et je rajouterai. C'est pour ça que si t'es Bielsa au début, je t'aime même dans la victoire, de supporter inconditionnel. Parce qu'en gros, t'es supporter des Suns qui gagnent ou qui perdent.
Ah oui, bien sûr.
Par contre, là où je suis pas d'accord, enfin c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je voudrais rappeler le truc des faits, c'est que je crois que les trades, c'est parce que vous changez de management.
C'est parce qu'on change de propriétaire. Mais le trade était déjà dans le coup depuis l'été précédent. Ouais. Les premières rumeurs Durant, c'est au moment de la signature de Ayton. Il y a déjà les premières rumeurs à l'été 2022.
C'est au moment où Durant, il dit « J'aimerais bien les signer soit au Suns, soit à Miami. »
Exactement. C'est ça, la grosse rumeur, quoi. C'est cet été où il y a déjà les rumeurs au net de Steve Nash commence à être relou, il est moins aimé par le vestiaire, etc. Machin. Il va dégager cet été. Déjà à ce moment-là, moi, c'était un de mes premiers articles sur mon blog à l'époque. Kevin Durant est intéressé par les Suns, il veut venir aux Suns, etc. Machin et tout. C'était déjà l'été 2000, je crois que c'est l'été 2022.
La relation s'est développée avec Booker aussi pendant les Jeux Olympiques. Beaucoup, les deux étaient très complices.
Oui, exactement.
A priori depuis.
Donc il y avait déjà ça dans les tuyaux à l'époque.
C'est super du coup de préciser ça parce que tu vois, pour pousser un peu la réflexion, moi je pense que ma peur, et tu vas sans doute me rejoindre là-dessus, vous allez sans doute me rejoindre là-dessus, c'est pas. De toute façon, les effectifs sont voués à changer, les cycles sont de plus en plus courts et les joueurs, ils veulent se barrer au premier courant d'air inverse. C'est bon, on a compris, quoi.
Ouais, grave.
Parce qu'en plus, par un jeu de système de trade, de bouger et tout, ta valeur, elle reste constante.
Ouais, ouais.
En plus de pognon à la fin, enfin bref, c'est un peu de l'économie basique, mais il y a de ça. Il faut que la roue tourne, quoi. Mais par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est le changement d'identité. Tu vois, par exemple, c'est un peu mon équipe de l'Est, on va dire, pour avoir passé du temps là-bas, vu des matchs, les Nets, machin. Et en discutant avec la fanbase, et puis en suivant, parce que ça fait du temps, hein, j'étais là, c'était 2016, ouais, donc ça commence à faire plusieurs saisons. Le moment où ça devient complètement autre chose, là, avec, on va dire, le trade d'Harden, qui est un peu d'ailleurs chez vous l'équivalent du trade de Bill, tu vois. Le trade en plus où tu dis, ah, c'était vraiment nécessaire celui-là.
Ouais, grave, ouais, ouais, grave.
Ce truc de point d'équilibre, là. Tu passes dans autre chose qui est vraiment là, effectivement, la bagouze ou rien. Et puis tu deviens un peu beaucoup plus médiatique, buterie, il y a des choses qui se mettent en place. Et tu perds presque un peu de ton identité. Bah, tu vois, c'est ça, moi, qui me fait plus peur. Et d'où ma deuxième question. Cette espèce de que les Kings deviennent un jour, alors ça ne deviendra jamais les Lakers, tu vois, ou que tu sentais que les mecs des Nets disaient, mais nous, on est fait pour être dans l'ombre. Et les mecs, ils s'identifiaient plus, les fans à long terme des Nets, notamment liés à l'équipe du New Jersey, ils transféraient plus un truc d'ADN Nets. Je ne sais pas si vous me suivez, mais dans l'équipe d'Ilo, comment il s'appelait
Jared Allen,
Le Vert, etc.
Qu'est-ce que j'aimais, cette équipe.
Voilà, qui va en play-off quand même, avec Atkinson, qui est combatif, qui est assez atypique, original et tout, et qui a un côté un peu underground, on va dire, très net, que, évidemment, le Big Three, Kyrie, Durant, machin. Ma deuxième question, c'est... Vous avez vu la série Game of Zone, les espèces d'animés de
Beach Club? Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est la famille aujourd'hui, hein, le House and Kings, là.
Voilà, on est complètement là-dessus. Donc, je rappelle que les Suns et les Kings, effectivement, dans un épisode, forment une seule et même équipe. Et ils ont un espèce de débat sur comment elle doit s'appeler. C'est assez marrant. Même si depuis, je note que...
C'est l'épisode le plus exceptionnel, je crois.
Depuis, j'avoue, les gars, vous nous avez un peu lâchés. Vous avez mis une distance, quand même. Même si ça va mieux pour nous aussi et tout. Mais bref, est-ce que vous trouviez ça logique, quand vous avez vu l'équipe, logique et légitime, on va dire, de fusionner les deux équipes?
Oui, à l'époque, ouais. À l'époque, moi, je trouvais ça même.
Donc, à l'époque, on rappelle, c'est avant la bulle, je pense.
Ouais, à l'époque, je trouvais ça incroyable de prendre deux des pires équipes de l'Ouest et de se dire, vas-y, fuck, on fait une seule équipe et on perd ensemble.
Ouais.
Si on avait fait qu'une seule équipe avec les Kings, même si eux étaient vraiment pas bons à l'époque, il y aurait eu quoi, 3 joueurs de la Team Suns, tellement. Ils étaient pourris.
Bah, c'était du. Il y avait Booker Cousins, quoi.
Ouais, c'est ça, Booker Cousins. Après, pick and roll de zinzin, Booker Cousins. Moi, j'aurais kiffé voir ça. Mais il n'y avait peut-être pas Fox. Si, il y avait Fox déjà, non?
Il y avait Fox.
Mais c'est genre Too Young Fox avec la... Avec, comment la... il s'appelle, l'attaquant argentin, avec la Palacio, limite
ouais,
la coupe
ouais.
à la Palacio, quoi.
Ah oui, c'est ça. Mais moi, Fox à l'époque, il... c'est comme. Enfin, c'est un
il
peu le.
Rookie,
dans les... Ouais, c'est ça, il doit être rookie ou sophomore. Et c'est surtout qu'il est. Il est sur les scouting reports, il est parfaitement complémentaire de Devin Booker, puisque Devin Booker est un shooter avec des capacités
de playmaking. Mais tu sais pourquoi on l'a pas pris, Fox. C'est pourquoi on l'a pas pris à la draft. Parce qu'on
ah non, je me souviens pas.
Kings,
vas-y, raconte.
Ils ont drafté 6. Fox, nous, on avait le choix 5.
13. 5, ouais.
Non, 5, 5.
C'est quoi, c'est la draft de Lane ?
C'est la draft où nous, on prend... Non, on ne draft pas 5, pardon, on draft 4.
Et c'est les Kings, parce que c'est ça, Fox est pris en 5, c'est pour ça que je ne voulais pas te...
Mais... Oui, Fox,
pardon, c'est réglé.
En 5, oui. Non, attends, t'es sûr qu'il est pris en 5 ? C'est pas la, c'est pas la même draft que Jonathan Isaac ou Isaac qui part 5. Attends, ah non, t'as raison. Ok, Fox 5, oui, bien sûr, de toute façon...
Vous prenez Lane, non ?
Hein, je crois.
Nous on prend une merde. On prend, c'est quoi, c'est Josh Jackson qu'on prend à cette draft là?
Ouais, ouais, ça doit être ça.
Ouais, c'est Josh Jackson.
Ouais, c'est la draft, je l'ai sous les yeux. C'est Fultz, Ball, Tatum, Josh Jackson chez vous et Fox.
Fox, et après il y a Jonathan Isaac, etc.
Il y a des gars après derrière.
Tu sais pourquoi on prend pas Fox? On prend pas Fox parce qu'on vient de re-signer à l'époque Brandon Knight. Quand tu donc... 7 ans après, 6 ans après, t'as envie de te tirer une balle dans la tête.
Parce mais que ça veut dire aussi qu'à une boule de loterie près, vous aviez Tatum. Ah non, parce que le trade, il est non, c'est un trade le pick volo.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est non,
truc,
en fait,
c'est Tatum. Il y a toute une histoire. Je sais pas si t'as le temps que je te la raconte, mais Tatum, il a failli être drafté par les Suns. Il a pas voulu faire le workout aux Celtics. C'est son agent qui lui a dit t'y vas.
Ouais. En fait, il est drafté par Boston via un pic de Sacramento via Philadelphie. Donc, c'est des micmacs.
Je pense que c'est le joueur que j'ai le plus espéré que les Kings aient un pic haut et puissent mettre la main dessus ces dernières années.
Ouais, bah c'est un sacré prospect hein, quand il arrive. Mais De'Aaron Fox, ce que je disais, c'est que De'Aaron Fox, il avait dans son scouting report, c'était avant tout un défenseur. Ouais. Et j'imaginais le backcourt Booker Fox.
Il est de Kentucky aussi, non?
Ouais,
Kentucky.
Non, mais c'était parfait.
C'est bien sûr que c'était parfait. Et comme quoi, la draft, faut jamais penser besoin. Faut pas penser fit. Faut penser talent pur.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Après, tu réfléchis. Et on avait un management tellement con. Mais on va pas revenir sur toutes les conneries qu'ils ont fait. C'est une bande d'abrutis. On a drafté des feats à chaque fois, puis bonjour les feats de merde.
Ouais. Les feats horribles.
On a laissé passer des Fox, des mecs, des Jamal Murray et compagnie, enfin bref.
Ouais, les feats, c'est vraiment genre Caris, Lara Fabian, ça marche pas quoi, ça peut pas marcher quoi.
Et tu vois, en dehors de l'effectif pur et du niveau de l'effectif, je trouvais ça bien vu et malin sur l'ADN, on va dire, des clubs respectifs, tu vois, sur un peu ce qu'ils représentent.
Ben oui, parce qu'il y a un côté perdant magnifique et historique.
Il y a un côté attaque des années 2000.
Ouais, c'est ça aussi. Ouais, dans les deux cas, effectivement.
On n'allait pas gagner le titre avec cette équipe. Pour revenir à Michael Bridges, Cam Johnson, tout ça, on les porte dans notre cœur de ouf parce que c'est plus que des bons joueurs, c'est des super êtres humains qui ont laissé une empreinte indélébile dans la fanbase des Suns et ça sera, j'ai l'impression, à tout jamais. Je veux dire, les mecs qui reviennent là il y a quelques semaines,
c'était la folie. Ouais.
Ils étaient accueillis comme des rockstars, les types mieux que les joueurs de notre équipe actuel, donc ils seront toujours aimés, mais on n'allait pas viser le titre à nouveau avec le corps qu'on avait, parce que DeAndre Ayton a décidé d'arrêter de jouer au basket à partir du moment où il a signé son contrat, avec toute la dinguerie qu'on a vue pendant un an, le mélodrama avec lui, on n'allait pas gagner le titre. Donc après, il y a eu un choix des Suns, c'était est-ce qu'on vise le titre avec Booker, et dans ce cas-là, on l'entoure de mecs sérieux, qui ont un vrai QI basket et qui ont envie de jouer, même s'ils sont plus âgés, ou est-ce que on fait plaisir aux fans et on laisse les chouchous en place. Le choix a été tranché, c'est en faveur de la compétitivité à court terme. Moi, c'est un choix que je regrette pas, même si ça m'a rendu triste de voir partir Bridges et Cam Johnson, et puis se tirer 4 tours de draft et un pick swap et machin. On a vendu la ferme pour avoir Kevin Durant, mais quand tu prends un peu de recul sur le truc, tu te dis, mais merde, putain, c'est Kevin Durant, tu es obligé de payer, c'est une des superstars de la ligue et c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc, t'es obligé de payer. On l'a fait.
Ouais, il se trouve, moi, je suis d'accord. En fait, d'être fan comme ça, comme nous, d'un club et de pas, tu vois, vraiment d'avoir ce truc, bah, c'est de vivre des trucs différents. Donc, vous avez la chance, là, de voir quand même Kevin Durant sous votre maillot, quoi.
Ouais, ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est un truc. Des fois, je me lève le matin, je dis, attends, Kevin Durant, tu vois.
Toi-même, Bradley Beal, on le critique, il est blessé, tout ça et tout. J'ai vu quel match où il fait un moment un dribble et derrière il enchaîne avec un layup, tu vois, contre la planche d'un peu loin, une pureté et tout à peine.
Ah, c'est si beau, Bradley Beal, c'est si beau à voir jouer.
Bradley Beal, et voilà, et donc.
Et puis, comme pour des choses, on a besoin.
Avec Bridges et Cam Johnson, bon, bah, vous les avez quand même eu un paquet de temps, vous les avez draftés. Si ça se trouve, ils reviendront peut-être. Enfin, tu sais. Et là, moi, je pense qu'il faut vivre le truc comme ça, tu vois.
Mais c'est comme ça qu'on essaie de le vivre. Hein. C'est comme ça qu'on essaie de le vivre.
Les équipes, on bouge, mais nous, on est toujours là, quoi, tu vois.
Ouais, exactement.
On prend les cycles les uns après les autres, les joueurs les uns après les autres. Et voilà.
Puis, n'empêche, le fait d'avoir ramené, mais Kevin Durant, je pense que c'est ce qui a permis de faire venir Bradley Beal.
Oui, bien sûr.
Le fait qu'il ait fait jouer sa no trade clause. Je pense que c'était vraiment pour jouer avec Durant et Booker, et pas juste Booker et Bridges, par exemple. Donc, ça a beaucoup joué sur pas mal d'autres événements. Et je trouve que l'équipe n'a pas été si mal construite autour. Alors, on a peut-être juste tout simplement eu de la chance. Hein. On a gratté un ticket de loterie avec Grayson Allen et le fait que Nurkic soit vraiment au moins aussi bon qu'attendu, voire pour moi meilleur que ce qu'on aurait pu attendre en début de saison. Vraiment les deux bonnes surprises, comme je disais au début du pod. Donc, quelque part, l'équipe est plutôt bien construite autour de ces joueurs phares. Maintenant, il y a un travail d'alchimie. Déjà, il faut que la mayonnaise prenne, donc ça prend un peu de temps. Et surtout, il y a un travail à faire sur le banc. Voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais il y a quelques éléments. Toi, je sais que toi, Rod, vous aimez bien Eric Gordon. Moi, je l'aime bien, mais avec parcimonie, et franchement, il me rend ouf en défense. J'ai un œil sur tous les autres joueurs et un œil juste sur lui pendant tous les matchs. J'ai un œil qui est juste pour Eric Gordon, pour voir quelle dinguerie il nous fait en défense. Il fait des dingueries. Quand tu te concentres sur le match, tu regardes bien, tu fais attention à ses moindres gestes, à comment il réagit, etc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie tellement sa défense est bête, mais d'une puissance. Et en plus de ses limitations défensives.
Me dis pas. Attends, Hicham, me dis pas que ça va être ça les mots de la fin, parce qu'il faut qu'on boucle
son podcast. Non, c'est pas les mots de la fin. Je vous laisse dire d'autres choses que mon petit rant là sur Eric Gordon, mais.
Écoute, avec Eric Gordon, les Suns sont aujourd'hui à 22-18 en bilan. Il en est 8e de la conférence Ouest en NBA. Les prochains matchs, on a une grosse série de 6, je crois, matchs à l'extérieur qui arrivent. On joue, si je ne me trompe pas, ce soir ou demain soir contre les Pélicans, ou peut-être hier soir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez de ce podcast. On est à la 25e pace de la NBA. On n'est pas trop mal à l'offensive rating. Oui, ça devrait changer, ouais. On est 12e à l'offensive rating, on est 16e au defensive rating, 12e au net rating avec plus 1,5. Ça aussi, ça devrait…
Je regardais, on est juste devant les Kings dans les deux catégories. Juste devant.
Ça devrait bouger bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était très cool de t'avoir, Simon. On espère qu'on ne t'a pas trop retardé sur ton planning de la soirée.
Non, ça va. Non, c'est un plaisir, franchement.
On aime bien déborder.
Ouais, merci beaucoup, Simon. Merci.
C'était un plaisir de t'avoir en tout cas.
On espère avoir le plaisir de t'avoir un de ces jours prochains pour reparler.
Ouais, peut-être le match de Nets, on peut se recroiser à ce moment-là.
Allez, on essaiera d'inviter Nets France aussi, qu'on aime beaucoup du côté du roster. Simon, on te souhaite une excellente soirée. Hicham, excellente soirée à toi également.
Merci, toi aussi.
La bise à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et à très bientôt.
Yes,
bye. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom!
That is just, oh. Sun came out, I went about to drop top.